Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Bonjour et bienvenue à cette édition des titres de sommation tue une personne à l'aéroport de Bobo-Dioulasso selon Libre Info. Salon international Synergie Sûreté, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, était en visite hier. Campagne cotonnière 2023-2024, les prix des intrants en hausse de 85%, une nouvelle difficilement accueillie par les producteurs, la Sofitex à leur cheville. Et puis, Salon international Synergie Sûreté, nous en parlons avec notre invité du jour, il s'agit de Yassine Zouri, commissaire général du Salon, ce sera enfin un des journaux. Une personne a été fauchée mortellement à l'Aubière, à Bobo-Dioulasso, par des tirs de soldats en faction à l'aéroport de la ville. Selon notre confrère de Libre Info, ces tirs de sommation ont atteint la victime alors qu'elle passait par l'entrée principale de l'aéroport en direction du salon d'honneur, indique Libre Info qui cite ses sources d'information également. Nous restons dans le domaine sécuritaire. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est rendu hier au salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense qui se tient depuis mardi dernier dans la salle de conférence de Ouagadougou. Sur place, le chef de l'État a visité les stands tenus essentiellement par les corps militaires et paramilitaires du pays, ainsi que des acteurs du secteur privé qui proposent des outils et des services de sécurité et de défense. Avec pour thème « Quelle contribution du secteur privé dans la sécurisation des États ?» Premier salon du genre au Burkina Faso, le CISTEF, a ouvert ses portes mardi avec la participation d'une quinzaine de sociétés africaines, européennes et asiatiques. Sa clôture est prévue pour ce jeudi. Et nous parlons toujours de ce salon. La police nationale du Burkina Faso a présenté ses différentes missions et ses modalités de recrutement de ses agents aux visiteurs de son stand. En plus de cette présentation, la police nationale a fait une mise en scène d'une embuscade tendue à son unité engagée dans la lutte pour la reconquête du territoire national par les terroristes. Cette démonstration a été faite hier à Ouagadougou. C'était en présence de Ibrahim Niaouné et Mariam Souma.
Engagés dans la lutte contre le grand banditisme, les crimes organisés et le terrorisme, la police nationale, comme les autres corps, est victime de la barbarie des groupes armés terroristes. Ce mercredi, la police, dans une mise en scène d'un théâtre d'opération, fait vivre aux citoyens les réalités du front. Une reconstitution grandeur nature qui met en scène une unité de la brigade anticriminalité en mission sur des zones nouvellement reconquises. Cette unité croise sur son chemin des personnes vulnérables qu'elle prend en charge. Mais ces personnes sont en réalité des terroristes qui se font passer pour des personnes nécessiteuses. Après une tentative échouée de pose d'engins explosifs, ces terroristes s'en prennent à des civils et tendent une embuscade à l'unité de la police. Les terroristes sont neutralisés lors des combats. Cette mise en scène vise à traduire la nécessité pour les forces combattantes à s'adapter au mode opératoire des terroristes. Roger Ouedraogo, directeur général de la police nationale.
Donc cela pour dire que, eh bien, il faut que les forces qui sont engagées prennent en compte cette perfidie-là et s'arment davantage donc, dans les stratégies pour contenir donc, l'adversité terroriste.
L'objectif de la première édition du Salon international de synergie, sûreté, sécurité et défense est atteint selon le commissaire général. Mais il appelle le secteur privé à accompagner davantage les forces de défense et de sécurité. Yacine Zouré, commissaire général du CISDEF.
L'objectif est vraiment bien atteint parce que nous voulons, à travers le CISDEF, vous avez le mot synergie, donc nous le respectons. L'idée c'est de rassembler toutes les forces de défense et de sécurité. Et ça a été le cas. Et les sapeurs-pompiers également ont fait une démonstration. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que nos forces sont soudées, unies et que nous avons besoin de l'accompagnement de tous. Eh bien, nous invitons le secteur privé à rester aux côtés de nos forces de défense et de sécurité.
À cette première édition du Salon international, la police a présenté aux visiteurs des outils utilisés dans le cadre de maintien de l'ordre et de sécurité dans le pays. L'objectif de ce salon était de faire connaître les tâches assignées aux différents corps des forces de défense et de sécurité à la population et cela dans l'optique de renforcer la confiance entre la population et son armée en cette période d'insécurité.
Et nous parlons de soutien aux forces combattantes. À présent, les ressortissants de Dano, regroupés au sein de Action Diaspora Dano, apportent leur soutien au FDS et au VDPIM. Ils ont mobilisé et remis mardi dernier la somme de 1 200 000 francs CFA au FDS et au VDP de Dano dans la province de Lioba. Le geste est composé, entre autres, de vivres, de matériel de cuisine, de bons de carburant et de numéraires. Une action voulue dans une totale discrétion. Le compte-rendu de Wabwe Bakouan.
Depuis quelque temps, plusieurs localités du pays manifestent leur soutien au FDS et au VDP. À Dano dans le Yoba, un regroupement de ressortissants dénommé Action Diaspora Dano marque aussi le pas. Ce 4G sans phare ni trompette, elle a mobilisé et remis au FDS et au VDP de la commune la somme de 1 200 000 francs. Un membre de la délégation qui garde l'anonymat.
Nous sommes venus pour supporter la commune encore dans ses efforts de sécurisation. Pour montrer non seulement notre soutien au VDP et aux forces de défense et de sécurité, mais aussi montrer notre attachement à la commune.
Ce geste est composé, entre autres, de vivres, de matériel de cuisine, de bons d'essence et de numéraires. Pour la remise, la délégation a voulu une discrétion totale autour de l'événement.
Nous pensons qu'en matière de sécurité, il faut être discret. C'est plutôt les résultats des actions de sécurité qui doivent être remarquées, pas les actes envers la sécurité qui doivent être remarqués.
Les bénéficiaires ont tous salué ce geste et promis une utilisation efficiente. Action Diaspora Dano, née pendant la crise Covid, n'est pas à son premier geste à l'endroit de la commune de Dano. Selon son représentant, elle s'inscrit toujours dans la dynamique des sollicitations de la commune. Dano, Webwe Bakouan, Radio Omega.
Je vous en parlais en titre. La campagne cotonnière 2023-2024 connaît donc une hausse des prix des intrants, plus de 85% donc, du hausse donc de ces prix, une nouvelle difficilement accueillie par les producteurs. En vue d'encourager justement les producteurs, donc après l'annonce de ces prix, une équipe de la Sofitex était en visite dans la commune de Houndé, hier. Des champs du village de Dankari, situé à plus de 80 km de la ville de Bourg-Lasso, ont été donc visités par cette équipe accompagnée par des producteurs. Mamou Ouedraogo pour le compte-rendu.
Cette visite s'ouvre au champ des Kankuanko dans le village de Dankari. Un champ d'une superficie estimée à environ 45 hectares, semé entre le 1er et le 17 juin, sont au stade de préfloraison en ce début du mois de juillet. En plus de la hausse des prix des intrants, les producteurs font face aux aléas climatiques pour cette campagne agricole. Kankuanko, producteur de coton à Dankari, explique.
Au début, en tout cas, ça n'a pas été facile. Les semis, on a commencé du 1er jusqu'au 17. Il y a des parcelles où on a semé deux fois, on a semé, ça n'a pas poussé, il fallait refaire les semis. On a pris le prix des intrants, bon, c'est pas facile, mais on va mettre le paquet.
C'est au vu de toutes ces préoccupations que l'équipe de la Sofitex de la province du Tuy a effectué cette visite guidée. Une visite qui a permis d'encourager ses producteurs et les affirmer leur soutien pour la réussite de cette campagne 2023-2024. Le directeur de la région cotonnière de Houndé, Ousmane Sié.
En tout cas, nous sommes qu'à dire qu'on reste sur le forum qu'on a dit. Ou pas Iraka Foko, en tout cas, nous sommes diabés. Malgré que Iraka Foko sont ni nous sont Gwalea Donbe, mais au Gwalea Mamro Farfa. Parce que depuis campagne dans le Ayalon, Gwalea Bidjamanana, donc, mais malgré ça, ce n'est que là qu'on tchèsiri nous. Ou tchèsiri, au Bupamanina, en tout cas, en qui hectare d'âme, il faut l'oubna Bamakas.
Cependant, Kankuanko interpelle les producteurs à ne pas baisser les bras.
Moi, j'encourage les cotonculteurs à ne pas baisser les bras, à se mettre sérieux pour bien appliquer l'engrais là, pour pouvoir maximiser sur les rendements. Si on a un bon rendement, on pourra s'en sortir.
Les prix des engrais pour cette campagne cotonnière 2023-2024 varient entre 28 000 et 32 000 francs CFA et les objectifs de production sont fixés à 625 000 tonnes de coton grain conventionnel et à 2400 tonnes pour le coton bioéquitable. Mamou Ouedraogo, revenu de Dankari pour la radio Omega.
Et nous restons À Bobo-Dioulasso, la deuxième édition du Salon des Mangues, Sama 2023, a refermé ses portes hier à la Maison de la Culture, Anselme Titiana Sanon. L'objectif de ce salon est de promouvoir la filière mangue dans toute sa diversité, débuté donc le 3 juillet dernier sous le thème « Les défis de la compétitivité de la filière mangue au Burkina Faso ». Sama est le lieu pour l'ensemble des acteurs de la filière de discuter sur les moyens d'amélioration de la mangue au Burkina Faso. Le point avec Albert Sanon.
La deuxième édition du Sama a permis aux acteurs de la filière mangue de réfléchir durant 3 jours sur les problématiques liées à la production, la transformation et la commercialisation de la filière mangue au Burkina Faso. Plusieurs défis sont à relever selon le président de l'interprofession mangue du Burkina, Yaya Kone.
Le défi de la mangue du Burkina Faso, c'est l'exportation sur l'Europe. Aujourd'hui, le Burkina Faso est le premier pays sur la mangue séchée à exporter. Mais nous rencontrons d'énormes difficultés. En ce qui concerne la mangue fraîche, nous sommes dans la 4e position, mais nous rencontrons aussi des problèmes. L'année 2022, les acteurs ont perdu plus de 400 millions de francs CFA à cause des interceptions.
La parasite est l'une des difficultés majeures qui entravent le développement de la filière mangue. C'est pour cela que les organisateurs espèrent à travers ce salon une réponse adéquate au déploiement des solutions parasitaires. Al-Hassan Sienou, président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins.
Il n'est plus à démontrer que cette filière est porteuse pour les acteurs. C'est le 8e produit d'exportation de notre pays. Nous nous disons dans cette région que c'est le premier produit d'exportation aérienne de notre région et de la ville de Bobo-Dioulasso et particulièrement de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la relance de la production des mangues dans notre région.
La filière mangue représente le 8e produit d'exportation du Burkina Faso et premier produit d'exportation aérienne de la région des Hauts-Bassins. Elle génère une recette d'exportation d'environ 17 milliards de francs CFA par an et s'avère donc très importante dans l'économie burkinabè, rappelle le directeur de cabinet du ministre en charge du commerce, Constant Franck Tapsoba.
La mangue représente une part très importante dans l'économie de notre pays. Et celle-ci représente environ 11 à 18% de la production en mangue au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire à quel point cette filière représente quelque chose de très important dans notre économie et nous ne souhaitons pas que cette filière au Burkina
Plusieurs activités ont meublé ce salon, à savoir un panel sur les enjeux de développement de la filière mangue, une exposition vente de produits et de services. Les meilleurs acteurs de la filière mangue ont été également honorés à travers cette édition. Adama Sombie, Bobo-Dioulasso, Radio Omega.
Nous en parlons à présent du Sénégal avec l'annonce de Macky Sall de ne pas briguer donc un troisième mandat. Une nouvelle bien accueillie, notamment dans son pays, également bien appréciée par certains acteurs du monde politique. Les ressortissants sénégalais réagissent également à la sortie du président Macky Sall, sortie au cours de laquelle il dit renoncer à un troisième mandat pour le représentant du parti d'Ousmane Sonko, principal opposant au Sénégal. Loin d'être une quelconque surprise, cette décision du président est tout simplement le respect des dispositions de la Constitution. Abdelaziz Oulabou a recueilli leurs avis pour vous.
C'est à la surprise presque générale que le président sénégalais a pris la décision de renoncer à un troisième mandat, une décision qui a quelque peu déçu certains au sein de son camp, parmi eux Mor Sall, un ressortissant sénégalais vivant au Burkina. Il est d'ailleurs le porte-parole de l'APR, le parti au pouvoir.
Nous sommes surpris parce qu'à un moment donné, nous avons pensé, avec le ni oui ni non, qu'il était en train de réfléchir pour quelqu'un comme moi qui souhaitait qu'il se présentât de nouveau. Voilà, il y a une petite déception, mais cette déception-là, elle est effacée par la grandeur dont le président a fait preuve. À travers cette décision, il a magnifié la sacralité de la parole. Comme je l'ai dit tantôt, il avait le droit de se présenter pour un nouveau quinquennat. La Constitution étant claire sur le sujet, le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs.
Contrairement à l'avis du porte-parole du parti au pouvoir, les partisans de Ousmane Sonko, principal opposant au Sénégal, explique cette décision par deux contraintes majeures, à savoir les dispositions de la Constitution, mais aussi la détermination populaire à faire barrage à un tel projet. Adama Thiam est le coordonnateur du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko.
Non, il n'a même pas un millimètre de grandeur. C'est la Constitution a dit ça très clairement. Je rappelle encore que l'article 27 de la Constitution sénégalaise stipule clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc en France, c'est très clair, ni Jean, ni Paul, ni un autre, aucun ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Un autre facteur, il y a la détermination populaire, la détermination des Sénégalais qui s'est opposée à sa volonté, à sa velléité de s'éterniser au pouvoir.
Les dispositions de cette constitution sont diversement appréciées par les uns et les autres. Ce qui est évident pour l'heure est que le président Macky Sall souhaite faire la place au cours des élections présidentielles de 2024. Comment l'avenir politique est perçu par les acteurs? Pour Mor Sall, le jeu est très ouvert.
Au niveau du camp présidentiel, nous ne savons pas qui sera le candidat, mais en tout cas, ça sera très très ouvert, vu que à la suite du dialogue, Khalifa Sall et Karim Ouad ont été, ou bien vont prochainement être rétablis dans leurs droits, parce que des lois seront proposées à l'Assemblée nationale pour modifier un peu le code électoral, pour leur permettre de se présenter.
La vigilance doit être de mise, selon le camp Sonko, qui soupçonne de la manipulation derrière. Adama Thiam.
Il est en train de barrer leur à certains opposants, surtout notre leader, le président Ousmane Sonko, qui est la plus grande figure politique du Sénégal, qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui a une lecture politique, une bonne lecture politique et qui est de bonne foi, doit reconnaître que le président Ousmane Sonko est la plus grande figure politique.
La condamnation d'Ousmane Sonko avait donné lieu à des heurts entre manifestants et forces de l'ordre en juin dernier, occasionnant le décès de 16 personnes et de nombreux dégâts matériels.
Nous parlons toujours de l'actualité internationale et cette fois-ci, nous allons au Mali où l'ex-premier ministre demande des réponses aux autorités sur le départ de la MINUSMA. Pendant ce temps, au Soudan, les combats s'intensifient à Khartoum où les habitants subissent une violence inédite. Souleymane Nkima.
Au Mali, l'ex-premier ministre Mara demande des réponses aux autorités sur le départ de la MINUSMA. Après 10 années sur place, la mission onusienne devra quitter le Mali d'ici 6 mois, selon l'exigence des autorités maliennes de transition. L'ex-premier ministre Moussa Mara demande dans un communiqué publié le lundi 3 juillet des réponses aux autorités de la transition sur le départ de la MINUSMA, car cette décision pose de nombreux défis selon lui, notamment sur comment combler le vide. Au Soudan, les combats s'intensifient à Khartoum. Les habitants subissent une violence inédite. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre. Depuis l'échec de pourparlers organisé par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Jeddah, aucune initiative diplomatique pour renouer le dialogue n'est à l'ordre du jour. Sur le terrain, les belligérants ont intensifié leurs opérations et selon des habitants de la capitale Khartoum, mardi 4 juillet a été la journée la plus violente depuis des semaines.
L'invité du jour.
Les forces de défense et de sécurité s'ouvrent au public. Elles accueillent depuis mardi les visiteurs au complexe salle de conférence Ouagadougou où se tient le salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense. On en parle avec notre invité du jour, Yacine Zouri, commissaire général du salon. Selon lui, cet événement met en exergue la contribution du secteur privé à la sécurisation du territoire. C'est d'ailleurs le thème sous lequel se tient cette première édition. Abdoul Fattah Temtori a rencontré pour vous Yacine Zouré.
Yacine Zouré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire général du Salon international de la synergie sûreté, sécurité et défense. Et déjà, de quoi il s'agit?
C'est un salon qui réunit les acteurs, tous les professionnels de la sûreté, de la sécurité et de la défense. Bien sûr, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les acteurs du privé qui évoluent dans le même secteur. Et à côté, nous voulons aussi avoir des activités qui accompagnent le salon, notamment sur la découverte de talents dans le domaine de l'innovation du secteur de la sécurité et de la défense. Le salon est dédié notamment aux exposants qui sont les forces de défense et de sécurité à travers les corps militaires et paramilitaires, mais aussi les entreprises qui évoluent dans le secteur de la défense et de la sécurité. Vous, en tant que Fattah, personne civile, vous venez nous visiter. Voilà, vous visitez, vous découvrez ce que les forces de défense et de sécurité font, parce que beaucoup de gens connaissent de nom les institutions, mais ne savent pas réellement ce qu'on y fait, de vous frotter à eux, parce qu'il y en a qui ont peur systématiquement des forces de défense et de sécurité. Donc c'est l'occasion de les rencontrer.
Quand on fait un tour, on a l'impression que c'est un espace, c'est un salon entre professionnels, entre spécialistes de la sécurité et de la défense qui se retrouvent. Est-ce que vous arrivez quand même à mobiliser, en tout cas surtout les civils qui viennent visiter, etc. Est-ce que d'ailleurs c'est l'objectif premier?
Oui, tout à fait. C'est un salon qui est ouvert, nous l'avons voulu ainsi. C'est vrai que systématiquement, lorsque nous avons démarré le projet, les questions qui revenaient, c'était bon, finalement le thème lui-même, c'est quelle contribution du secteur privé à la sécurisation intérieure des États. Si on parle du secteur privé, on retrouve le civil lambda. Donc du coup, il faut reconnaître que le salon, il est ouvert à tous. Nous avons d'ailleurs depuis ce matin reçu la visite des civils qui sont passés, qui ont découvert, qui ont posé des questions. Et c'est dans cet esprit que nous voulons continuer. Parce qu'il y a des salons de cette nature qui existent dans d'autres pays. Nous avons la chance de l'avoir chez nous. Alors profitons-en, surtout dans ce contexte.
Vous avez abordé un aspect tout à l'heure. Pourquoi un tel projet dans un environnement comme celui du Burkina Faso, quand on sait que généralement, les acteurs de la défense et de la sécurité, surtout les forces de défense et de la sécurité donc, nationale, préfèrent la discrétion à la publicité? Et comment vous arrivez donc à les convaincre à s'ouvrir autant au public?
C'est vrai que même en temps de paix, il faut faire savoir ce qu'on fait. C'est important. Au niveau des forces de défense et de sécurité, on les qualifie de grandes muettes, mais pas tant que ça. Lorsqu'il y a des occasions, des opportunités de faire découvrir ce qu'ils font, parce que sachez que nous avons besoin de renouveler les ressources humaines au sein des forces de défense et de sécurité. Et c'est par la communication que cela peut se faire. Et les espaces de communication, eh bien, c'est à l'occasion de ce type de salon. Donc du coup, quand on a présenté le projet, et bien sûr, ça a été bien accepté parce que nos forces de défense et de sécurité participent à des événements similaires ailleurs. Donc, l'organiser chez nous, c'est une belle occasion. C'est ce qui fait que, du coup, ça a été accepté par les plus hautes autorités du Burkina Faso. Et vous savez qu'avec le contexte que nous avons aujourd'hui, cela se justifie davantage. C'est vrai que ça mobilise des hommes, mais je pense qu'on est obligé aussi de vivre, de continuer, de mener des activités parce que c'est cela qui nous rend encore plus forts et nous permet en tout cas d'aller de l'avant, de trouver la paix, ce qu'on souhaite tous.
On ne peut pas s'empêcher justement de faire ce rapprochement-là avec ce qui se passe dans notre pays. En quoi ce salon peut servir cette lutte contre le terrorisme-là au plan national?
Nous n'allons pas être prétentieux, parce que vous savez, l'important de savoir que la question sécuritaire est une question permanente. Alors, avec ou sans terrorisme, la question sécuritaire est primordiale. Donc nous n'avons pas pour ambition d'éradiquer cela en une fois, mais c'est une contribution. Je pense que l'appel a été lancé par les plus hautes autorités et tous les Burkinabés s'impliquent à leur façon. Et nous, c'est notre contribution également.
Il y a l'exposition, mais il y a aussi de la réflexion. Quelles sont les activités de ce type-là qui sont prévues dans le cadre de ce forum-là, en termes de réflexion ou en termes de concertation entre les différents acteurs?
Au-delà de la conférence inaugurale qui porte sur le thème de l'édition, nous avons aussi des conférences qui ont trait au rôle de la culture dans la cohésion sociale, parce que vous savez, quand on a une crise, il faut peut-être repartir un peu en arrière pour voir quelles sont les causes afin que cela ne se répète pas, qu'on puisse corriger quand c'est possible. Nous avons également des conférences sur les technologies, parce qu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, un peu partout, tout le monde se demande de quoi il s'agit. Et quelqu'un a dit une fois que la prochaine guerre sera très rapide, parce qu'on va juste cliquer sur des boutons. Et je me souviens qu'il y a un pays qui a fait une simulation où justement il y avait une attaque et il y avait une équipe d'informaticiens qui ont réussi à empêcher des missiles de décoller. Aujourd'hui, on a des talents, des jeunes qui sont vraiment intéressés dans le secteur des nouvelles technologies. Il faut les amener à réfléchir parce que justement cette guerre, elle passe aussi par là. Donc c'est autant de thèmes que nous avons positionnés. On a aussi, comme je le disais tout de suite, un hackathon que nous avons organisé qui dure les 4 au 6 pour justement faire travailler des jeunes qui ont des idées sur justement des solutions qui pourraient nous aider en matière de sécurité et défense.
Yacine Zouré, merci.
Je vous remercie.
Voilà, c'est ici donc que nous refermons ce journal réalisé par Fidel Compaoré, présenté par moi-même Denis Zungrana. Et nous terminons avec ce proverbe qui nous vient d'Égypte. Ne te défie pas de la garde de Dieu, mais attache cependant ton chameau. Excellente journée en méditation sur ce proverbe à l'écoute toujours des programmes de la Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.